Bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans cette seconde partie des rencontres de l'IHEL sur les relations États-Unis-Amérique latine. Et plus précisément cet après-midi, après une matinée où on s'est plutôt appliqué à historiciser cette relation, cet après-midi, après la projection de ceux d'en face, de laquelle vous sortez, une réflexion qui va plutôt être focalisée sur la question des flux migratoires, des représentations de ces flux migratoires dans la société des États-Unis et du poids des latinos, poids économique, poids culturel, poids politique dans la société états-unienne. Avant de lancer la discussion, très rapidement, je me tourne vers vous, Stéphane, par exemple. Une petite réaction, 30 secondes sur ce film, qu'est-ce qu'il t'a inspiré ?
Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est bien sûr au-delà évidemment des enjeux migratoires classiques Nord-Sud, c'est surtout le rôle de la dignité humaine et le rôle de l'homme face à ce mur de la honte qu'on voit à la fin et qui me fait penser un peu à une réflexion de, à la fois et une action du pape Jean-Paul II qui disait que au fond son grand enjeu c'était d'abolir le mur du Berlin, etc., d'abolir le communisme en quelque sorte, c'est-à-dire au fond, c'était le projet du pape de l'intérieur des terres, et que le pape actuel, c'est le pape des frontières. Et ce qui m'a frappé, c'est lorsque le pape est venu aux États-Unis, il a souhaité commencer par un pays du Sud, Cuba, pour aller aux États-Unis, pour symboliquement montrer l'importance et symboliquement le rôle du rôle de la nécessité d'abolir les frontières et d'établir des ponts en réponse aussi au projet de Trump, qui est postérieur bien sûr au film qui date de 2009.
Voilà, il ne vous a pas échappé que ce film, donc daté de 2009, mais en fait a été tourné à l'époque de George Bush, fils, et que justement la question du mur se pose déjà, bien qu'elle se pose évidemment très différemment de la manière dont elle se pose aujourd'hui. Après, évidemment, ce film, je racontais tout à l'heure là, aux intervenants qu'on avait assez longuement cherché un film venant illustrer les dynamiques migratoires et susceptibles d'être diffusé, c'est-à-dire sous-titré également, et qu'en fait, il n'y a pas tant de films que ça. Alors celui-là, il est un petit peu ancien, mais je trouve qu'il pose des bonnes questions aussi bien sur les désirs des États-Unis que sur les représentations que ces migrants véhiculent aux États-Unis, même si, évidemment, il est fondé sur une toute petite échelle, qui est l'échelle des villes jumelles Tijuana-San Diego, comme on a d'autres villes jumelles, Ciudad Juárez-El Paso, etc., toute la frontière entre les deux pays et fonctionne de la sorte. Alors évidemment, nous, notre enjeu aussi, c'est de changer un petit peu d'échelle de la réflexion. Et justement, je me tourne vers Virginie là, pour lancer un petit peu la discussion. On pourra revenir sur le film ensuite. D'abord, est-ce que tu peux nous résumer rapidement, à l'échelle des 15-20 dernières années, l'ampleur de ces flux migratoires depuis l'Amérique latine vers les États-Unis ? Ou même à une échelle plus longue, si tu le souhaites, même si on a déjà un peu parlé d'histoire ce matin.
Bon, alors je pense qu'il y a peut-être un point de départ sur lequel on peut revenir, sur l'ampleur de la migration latino vers les États-Unis, sans remonter aussi loin que ce matin, c'est 1965. 1965, c'est la réforme migratoire américaine qui met un terme en fait au quota, et qui réouvre plus largement les portes des États-Unis à l'immigration. Et c'est en fait à partir de ce moment-là que l'immigration latino-américaine, à commencer par l'immigration mexicaine vers les États-Unis, va se développer. C'est le moment aussi où se met en place le programme Maquiladora, donc de l'installation de ces entreprises qui sont au départ américaines, mais après de capitaux d'autres pays, qui vont s'installer du côté mexicain de la frontière et dont l'objectif est quand même d'essayer de fixer des populations mexicaines du côté mexicain de la frontière afin d'éviter qu'elles ne traversent. En fait, les flux migratoires...
Donc créer de l'emploi à capitaux américains ou à capitaux étrangers au Mexique, qui présente l'intérêt d'être d'avoir un coût moins élevé que l'emploi aux États-Unis et en même temps, effectivement, d'offrir des débouchés au Mexique, aux Mexicains, et d'éviter
Oui, avec comme condition qu'au moins 80% de la production de ces usines est ensuite exportée vers les États-Unis ou vers le Japon ou vers l'Europe, parce qu'il y a des maquiladoras d'autres pays. Ensuite, l'autre grande date qu'on voit d'ailleurs citée à plusieurs reprises dans le film, c'est 1986. 1986, c'est la loi IRCA, Immigration and Reform Control Act, qui est vraiment une grande loi américaine de réforme migratoire. Et en fait, à ce moment-là, l'objectif des États-Unis, c'est d'essayer justement de mettre un terme au flux de migrants irréguliers. Hein, on va éviter de dire clandestins ou illégaux, hein, pour des raisons politiques, donc plutôt des migrants irréguliers qui passent la frontière. Et donc en 1986, les États-Unis régularisent 3,2 millions de sans-papiers, ce qui est considérable. Sur ces 3,2 millions, il y en a 2,3 millions qui sont mexicains. Et la condition de cette, la contrepartie de cette régularisation, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à véritablement fermer la frontière. Donc on régularise ceux qui sont là, et en revanche, on essaye d'éviter de faire entrer des nouvelles personnes. C'est un grand tournant dans l'immigration, parce que c'est en fait à ce moment-là qu'on va avoir beaucoup de regroupements familiaux. C'est-à-dire que cette immigration qui, pendant longtemps, bon, elle est héritée hein, de tous ces liens économiques dès la fin du 19e siècle et beaucoup au 20e siècle, pour, en particulier pour travailler aux États-Unis. C'est souvent une migration masculine. Les familles restent au Mexique et ce sont les hommes qui circulent. Et à partir de 1986, justement, il y a beaucoup de regroupements familiaux qui sont aussi permis par le fait qu'on donne des papiers à beaucoup d'entre eux. Et donc, c'est un vrai changement dans l'immigration à partir de ce moment-là.
Alors, on est en 1986, c'est-à-dire qu'on est sous Reagan. Est-ce qu'il y a un lien entre cette loi et, par ailleurs, les guerres centra-américaines dans lesquelles les États-Unis sont indirectement impliqués? Est-ce qu'il y a l'idée, je dirais, à la fois de régulariser un certain nombre de personnes et de bloquer ensuite les frontières pour éviter éventuellement une vague centra-américaine?
Alors, effectivement, les années 80, on est en plein dans les conflits centra-américains, mais en fait, l'immigration centra-américaine n'est pas encore très importante à ce moment-là, en fait. Donc, il y a un lien. Enfin, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'éviter de voir une massification de cette migration, mais ça ne marche pas du tout, parce qu'en fait, les flux d'immigration ne cessent de croître à cette période, hein, pendant encore, jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, aujourd'hui, il y a aux États-Unis à peu près... Alors, il faut distinguer aux États-Unis ce qu'est la population qu'on dit hispanique, hein, de la population migrante. Aujourd'hui, en 2020, il y a 60 millions d'hispaniques aux États-Unis, c'est-à-dire de personnes qui, dans le recensement américain, se reconnaissent, hein, sous le principe de l'autodéclaration, comme étant d'origine hispanique. Ce n'est pas une race, hein, c'est une origine, c'est une distinction dans le recensement. Et par ailleurs, il y a à peu près 40 à 45 millions de ce qu'on appelle les foreign-born, hein, c'est-à-dire les immigrants aux États-Unis. Sur ces 40 à 45 millions, plus de la moitié sont d'origine latino-américaine et plus du tiers, presque 40%, sont en fait mexicains. Donc les Mexicains aux États-Unis, c'est à peu près aujourd'hui 12 millions de personnes. Et c'était, j'ai noté 2-3 chiffres pour vous, juste pour faire un petit rappel. En 1980, il y avait 2 millions de Mexicains aux États-Unis. Il y en avait 9 millions en 2000, hein, donc x 4 en 20 ans, avec 1986 entre les deux. Et en 2010, presque 12 millions. Et alors, ce qui est nouveau, en fait, sur la décennie 2010-2020, c'est qu'il y a une stagnation de cette immigration. Et ça, bon, c'est un phénomène dont j'aimerais bien qu'on parle, peut-être pas tout de suite, mais c'est un phénomène important.
Alors on va en parler parce que je vais aborder les politiques publiques justement autour de ces mouvements migratoires. Mais avant, donc, j'en profite pour rappeler une chose qui est très importante également dans l'histoire des États-Unis. On a tous appris, je pense qu'on... Vu l'âge, non, pas les jeunes, le lycéen, mais enfin, jusqu'à une date récente, on apprenait que la première minorité des États-Unis... c'était les populations afrodescendantes, et c'est à la fin des années 2000 que la première minorité est devenue les latinos, ce qui n'est pas le moindre des changements symboliques, hein, je dirais, dans le rapport des États-Unis à leur propre histoire. Alors, juste sans anticiper sur le ralentissement récent de ces mouvements migratoires, quelles sont les origines? Alors, on a bien compris qu'il y avait une importance du Mexique, évidemment, mais quelles sont les origines en termes de nationalité de ces migrants dans la période récente, disons, les 30 dernières années encore?
On parle des latinos, là.
On parle des latinos.
On parle des latinos. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près autant de Mexicains aux États-Unis que de Sud-Américains aux États-Unis. Et là, quand je dis Sud-Américains, je parle au sud du Panama, hein, le continent, la partie sud-américaine. Les deux autres grands groupes, c'est bien sûr les Caribéens, hein, qui sont plus de 6-7 millions hein, aux États-Unis, et les Centra-Américains, dont l'ampleur n'a fait que croître ces 30 dernières années, qui sont entre 4 et 5 millions, hein, ce qui est tout à fait considérable.
Donc dans l'ordre, Mexicain, Centra-Américain, Caribéen, puis ensuite seulement Sud-Américain. Le principal facteur étant évidemment que l'immigration est d'autant plus compliquée qu'il y a de l'éloignement, j'imagine.
Tout à fait.
Ok. Ouais. Autre élément, est-ce que tu as quelques données à nous fournir en termes, je dirais, d'intégration socio-économique ? Et là, c'est aussi pour introduire une idée importante, je crois, pour vous, le public qui allait regarder des films sur ces communautés latino aux États-Unis, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un tout homogène et qu'elle est très diversifiée, aussi bien dans ses ancrages territoriaux, il y en a beaucoup à l'ouest, mais il y en a ailleurs également, que dans son insertion socio-économique. Alors, quelques données générales, Virginie ?
Oui, alors tout à fait. Là, il y a une grande différence entre ce qu'on peut considérer comme étant ceux qui viennent du sud, enfin, de l'Amérique du Sud, et ceux qui viennent d'Amérique centrale, du Mexique et sur les Caraïbes, c'est quand même assez diversifié. C'est-à-dire que les Mexicains sont vraiment en général dans le bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire que les indicateurs de réussite socio-économique des Mexicains sont très bas. C'est là où les taux de pauvreté sont les plus élevés.
Donc ils s'occupent des légumes en Californie ?
Non, pas que, hein, parce qu'il y a beaucoup de, il y a énormément ce qu'on appelle aussi les cols roses, hein, d'emplois dans les secteurs de la domesticité et des services. Il y a aussi des emplois industriels qui sont très importants. En particulier qui ont fait la très grande migration mexicaine, par exemple, autour des Grands Lacs, autour de Chicago, dans l'Illinois, où il y a une très très grosse communauté mexicaine, mais aussi maintenant dans d'autres États, parce qu'aujourd'hui, l'État où l'immigration latino est la plus importante aux États-Unis, c'est le South Dakota, c'est aussi le Montana, c'est aussi tous les États du Sud, hein, où en fait il y a une diffusion très importante de cette migration qui travaille notamment dans des activités liées à l'industrie, au transport, à l'électrification, à des choses comme ça, et puis aux services. En revanche, les Sud-Américains qui ont une migration, en fait, alors effectivement, c'est beaucoup plus difficile de venir d'Amérique du Sud que de venir d'Amérique centrale, parce que c'est beaucoup plus difficile de venir par la route. Hein, vous savez qu'il y a d'abord quand même la jungle de Darien, hein, au Panama, qui est totalement infranchissable, donc c'est pas possible de passer par la route d'Amérique du Sud à l'Amérique centrale. Donc ça veut dire qu'on est obligé de prendre l'avion, hein, pour venir aux États-Unis.
Ou le bateau.
Ou le bateau. Mais la plupart des migrants d'Amérique du Sud qui arrivent aux États-Unis, d'ailleurs la plupart des Mexicains aussi, hein, arrivent avec des papiers, avec des visas qui sont des visas de touristes, et tombent dans l'irrégularité en restant comme overstayers, c'est-à-dire que leur visa expire et ils restent sur le territoire américain. Hein, ça, c'est vraiment la grande majorité des entrées. Et en fait, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, essayer de passer sans papier d'Amérique du Sud vers les États-Unis, j'ai des chiffres récents pour la Bolivie, c'est au moins 20 000 dollars d'investissement, hein, pour essayer de passer sans papier, hein, depuis la Bolivie jusqu'aux États-Unis. Alors que du Mexique aux États-Unis, sans papier, on peut s'en sortir pour entre 3 000 et 8 000 dollars le passage, ce
donc
qui reste quand
là,
même
tu
très
parles
élevé.
Bien de, tu parles bien de réseau de passeurs.
Là, je parle de réseau de passeurs. Alors après, il se trouve que la migration d'Amérique du Sud, c'est quand même une migration qui est plus qualifiée que l'insertion économique des Brésiliens, des Argentins, des Chiliens aux États-Unis est bien meilleure que celle des Centra-Américains ou que celle des Mexicains. On a beaucoup plus d'émigrations de populations qualifiées. Bon, il y a eu bien sûr tous les exodes politiques, mais aussi des migrations qui sont des migrations qualifiées. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes segments en fait, socio-économiques. Et puis il y a des groupes qui sont beaucoup plus hétérogènes. Je dis que les Mexicains et les Centra-Américains sont ceux qui ont les taux d'intégration, les indicateurs d'intégration socio-économique les plus faibles. Mais ce n'est pas non plus à généraliser, il y a évidemment aussi une diversité. Puis il y a un groupe qui est aussi très divers, c'est le groupe des Cubains. hein, parce que justement, bon, qu'il y a un groupe peut-être sur lequel.
Alors,
on va
s'y arrêter deux minutes justement, et je voulais me tourner vers Jean de ce point de vue, puisque effectivement le groupe des Cubains a une histoire très particulière. D'abord, il y a eu une émigration cubaine ancienne, hein, dès le moment de l'indépendance cubaine, mais relativement limitée. Un très gros flot d'émigration politique après la révolution castriste de 1959, qui en gros représentait les partisans de Batista qui ne souhaitaient pas, ne pas rester sous le régime de la révolution castriste. Et puis après, il y a eu d'autres flux migratoires sociologiquement différents, et je pense en particulier à l'exil du port de Marielle, fin des années 70, début des années 80. Vous avez tous vu Scarface, le film. C'est cette histoire-là que cela... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais il faut le regarder. C'est cette histoire-là que ça raconte en particulier. Alors, Jean, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse, justement, sur ces Cubains qui sont principalement en Floride, ce qui nous introduira aussi un peu plus tard à la place, mais pas maintenant, mais à la place de ces communautés dans le vote. Hein, on sait que la Floride est un État assez stratégique, un État pivot, hein, dans les élections américaines. Alors, quelques éléments sur cette émigration cubaine, Jean.
Oui, ce qui est très frappant, j'écoutais Virginie avec les dates de l'histoire de l'immigration. Effectivement, ces dates sont déconnectées du problème cubain. Cuba, c'est vraiment une question de politique intérieure américaine, en liaison évidemment avec les événements à Cuba. Mais ça, disons que si je devais faire l'historique des émigrations, ça n'a à peu près rien à voir avec les dates que tu as mises en avant. C'est assez intéressant, et rien que cette différence de date est assez parlante. Alors effectivement, il faut distinguer dans l'émigration cubaine, je dirais, il y a vraiment grosso modo trois grandes époques. La toute première, elle concerne beaucoup de gens, mais de très haut niveau social, en général. C'est les gens qui fuient le régime, soit parce qu'ils étaient les partisans de Batista, soit parce qu'ils ont eu peur, même s'ils étaient au départ favorables à la révolution cubaine, ils ont eu peur de l'évolution de la révolution cubaine vers le socialisme communiste.
Sans compter que la révolution n'a pas été exempte d'une certaine épuration dans les premiers mois.
Voilà. Donc, il y a eu ces deux phénomènes. Alors, les tout premiers, c'est une minorité, elle est très importante, les gens qui s'enfuient dès le début de 59, mais on en parlera par la suite, mais je la mentionne très rapidement, elle a un rôle politique essentiel dans son intégration, ce sont les partisans de Batista, et c'est un petit peu, si on devait comparer avec notre émigration du début de la Révolution française, le duc d'Angoulême, c'est vraiment l'émigration de l'aristocratie qui reste, alors elle, c'est pas 25 ans, c'est 50, 60 ans, sans avoir rien appris, rien oublié, et qui continue à revendiquer le Cuba d'avant, les propriétés d'avant, etc., etc.
Et souvent qui avait construit des liens très forts avec les États-Unis, qui était déjà très intégré, c'était le protectorat de Cuba à cette époque-là.
Il y a une telle proximité entre Key West et la Havane, entre la Floride et la Havane, que vraiment c'était un vol, il y a 30 vols quotidiens, enfin bon. Il y a donc une très forte... Cette petite immigration-là joue un rôle extrêmement important. À celle-là, il faut ajouter un phénomène peu connu en Europe, bizarrement, c'est l'affaire des Peter Pan. Je vais peut-être expliquer très rapidement de quoi il s'agissait. C'était quelque chose qui a été organisé, ce qui explique d'ailleurs beaucoup la tension du début de la Révolution entre le parti dominant à l'époque, qui s'appelle Parti Unifié de la Révolution cubaine, devenu le Parti communiste, et l'Église catholique. C'est l'exportation d'enfants, mais de milliers d'enfants cubains sortis de Cuba pour les préserver du marxisme, c'est l'expression qui était dite à l'époque, et c'était organisé par l'évêque ou l'archevêque, je ne sais pas, l'archevêque de Miami à l'époque, et il y a actuellement à Cuba des milliers de cette époque-là d'enfants cubains, mais qui aujourd'hui 60 ans, 70 ans, et qui cherchent à retrouver un petit peu ce qu'était leur racine. Mais là, c'est un phénomène qui a été très important parce que ça montre comment il y a une dimension totalement, alors strictement politique de Cuba, ce qui est très différent de ce dont on vient de parler. Alors ça, c'est le tout début, c'est-à-dire la peur des partisans de Batista et l'immigration fuyant l'évolution de la révolution cubaine et la répression dont ces gens-là faisaient l'objet. Et puis, il y a une deuxième vague, alors celle sur laquelle tu m'interroges, qui est celle de Marielle, qui est beaucoup plus connue, et la troisième vague qui est plus contemporaine. à partir du moment où, à Cuba, on ne pouvait plus sortir. On ne sortait plus de Cuba pour les raisons qui sont celles que vous, que tout le monde connaît et dont tout le monde se souvient, et qui sont les mêmes qu'on ne sortait pas de RDA, de Pologne, de tout ce que vous voulez, quoi. Donc il y avait une impossibilité de sortie, l'idée que lorsqu'il y avait un phénomène extrêmement tendu qui se passait entre les États-Unis et Cuba, l'immigration était un levier que les Cubains, que le gouvernement cubain pouvait avoir. Et effectivement, au moment de Marielle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une tension et un arrivage, un flot de ce qu'on appelle les boat people, ce qu'on appelait les boat people au Vietnam, ces Cubains qui se lancent à la mer pour essayer de... pour des raisons qui sont moins politiques que l'énorme difficulté qu'il y a à vivre à Cuba, tout simplement. Alors celle-là, elle est vraiment, c'est une émigration économique. Mais à partir du moment où il y a une réaction sur des sujets qui peuvent être différents, d'ailleurs, qui peuvent être strictement politiques des États-Unis, le gouvernement cubain dit « Très bien, vous voulez les droits de l'homme, vous les avez, j'ouvre les frontières, tout le monde peut partir ». Et on en profite d'ailleurs pour vider aussi les asiles psychiatriques, les prisons. Enfin, on expédie ce monde-là. Vous avez, alors, il y a deux ports, dont le principal est celui de Marielle. L'autre est un petit port qui est de l'autre côté de la Havane, qui est le port d'Hemingway, là où Hemingway avait son... pour ceux qui ont lu Le vieil homme et la mer, bien sûr. C'est ce petit port qui est à... Marielle est un port relativement important du côté à l'est de la Havane, à l'ouest de la Havane, et l'autre est légèrement à l'est. Donc là-dessus, vous avez eu un flot de gens qui sont arrivés massivement et qui représentent vraiment une immigration économique, mais vous avez même des gens des dirigeants du parti, des gens qui ont pris l'occasion. C'est vraiment, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a une telle crainte que, bon, on sort, on verra ce qui se passe. Là-dessus, c'était une époque d'extrême tension entre les États-Unis et Cuba, mais qui était liée aussi il y avait d'autres phénomènes de cette nature. À l'époque, il y avait également une occupation de l'ambassade du Pérou à la Havane, des gens qui cherchaient des délinquants, apparemment, ont pris, avec un camion, ont foncé dans la porte de l'ambassade et ont tué le gardien de l'ambassade, qui était le gardien qui était cubain, quoi, le policier cubain. Alors, les Cubains ont demandé l'extradition, les Péruviens ont refusé. Et à ce moment-là, les Cubains ont dit, très bien, vous refusez, donc ça veut dire que c'est dangereux d'être policier pour garder votre ambassade, on ne la garde plus. Et vous avez des milliers de Cubains qui se sont précipités à l'ambassade du Pérou. Également, c'est une espèce de fuite devant la difficulté de la vie à Cuba. Et c'est une vie, et c'est une deuxième vague, donc dans les années fin 70, 80 et 90 même, très économique.
Et la dernière vague, alors ?
La dernière vague est beaucoup plus récente. Elle est plutôt liée au lever des restrictions. À partir de 2000, je ne veux pas dire de bêtises, 2011, les Cubains peuvent sortir librement de leur pays. Il n'y a plus d'autorisation de sortie du territoire, c'est terminé. N'importe quel Cubain peut se présenter au consulat avec son ambassade, de l'ambassade choisie, avec son passeport. Il n'y en a pas plus qui sortent légalement, puisqu'on ne donne plus de visa maintenant. C'est une des discussions que j'avais eues à l'époque avec les dirigeants cubains, en disant, je ne comprends pas comment est-ce que vous gardez ce rôle de contrôle, alors que le méchant du film, c'est vous, mais si demain vous supprimez cette autorisation de sortie du territoire, le méchant du film, c'est nous. C'est les ambassades européennes, latino-américaines ou des États-Unis qui refusent de visa. On ne donne pas plus de visa à des Cubains. On est normal, Cubain, et du coup, un pays normalisé. Mais il y a eu cette dernière vague. Alors, autant la première vague était sociologiquement extrêmement en haut, souvent en haut, la deuxième en bas. La troisième, ce sont des gens formés, et assez bien formés, au niveau scolaire, au niveau sportif, au niveau médical, etc. Donc ce sont c'est une partie de la population beaucoup plus produite de la révolution cubaine, et qui là aussi ne part pas fondamentalement pour des raisons politiques. Les réfugiés politiques, les gens qui sortent pour des raisons politiques, ça m'embête de le dire, mais moi, entre 2011 et 2015, quand j'étais à Cuba, au moment où il y a eu la levée de l'interdiction de sortie du territoire, je n'ai pas eu de demande, aucune, pas une personne s'est présentée, et aucune ambassade européenne n'a reçu de demande d'asile politique. Ça ne va.
Donc tu veux dire que ce serait aussi une motivation plus économique dans cette dernière vague?
C'est une sortie économique qui est liée au système politique à Cuba. Je ne distingue pas l'un de l'autre.
Bien entendu.
Mais j'insiste sur le fait que ça n'est pas du tout la même forme d'émigration que les émigrations précédentes.
Alors évidemment, d'un point de vue méthodologique, tout ça nous fait dire que, et c'est comme ce matin, on peut très bien avoir un discours général sur l'Amérique latine et les États-Unis, les latinos aux États-Unis, mais après, on ne fait jamais l'impasse sur le fait qu'il faut descendre à l'échelle des différents cas nationaux, puisque chacun a sa spécificité. Et puisqu'on vient d'évoquer justement, enfin, après les migrations, évidemment économiques, et on va revenir, hein, Virginie, sur les motifs aussi de ces mouvements migratoires, et d'avoir pris cet exemple, après avoir pris cet exemple cubain très politique à partir de 59, en tout cas, je voudrais juste en profiter pour évoquer quand même une autre émigration récente, très politique également, qui est l'émigration vénézuélienne. Il y a une communauté vénézuélienne qui s'est formée aux États-Unis depuis le début des années 2000. Qui veut en dire un mot, Virginie, Stéphane? Virginie?
Oui, effectivement, il y a une forte implantation aussi en Floride, hein, de cette communauté vénézuélienne qui est issue. En fait, c'est même avant les années 2000, hein, parce que en fait, les liens entre le Venezuela et les États-Unis, enfin entre l'élite vénézuélienne et les États-Unis, sont quand même très anciens. Et l'élite vénézuélienne avait l'habitude d'aller faire ses courses à Miami le week-end.
Comme on dit, mais c'est tout à fait juste, bien sûr.
C'est-à-dire que bon, c'est pas loin du tout, en fait. Hein, c'est 2h30 d'avion, Miami-Caracas. Donc, il y a des liens anciens. Et en fait, à partir de l'époque Chavez, donc, arrive au pouvoir en 98, donc ça commence au début des années 2000, c'est d'abord effectivement l'élite économique qui part et qui vient s'installer dans certains espaces qui deviennent même, il y a une petite ville de Floride qui s'appelle El Doral, qu'on appelle Doral Suela, hein, qui est considérée comme un des lieux historiques de cette migration vénézuélienne, qui aujourd'hui, bien sûr, n'est plus du tout principalement dirigée vers les États-Unis. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, les États-Unis sont une destination quand même très secondaire de l'exode vénézuélien d'aujourd'hui, hein, puisque c'est 4,5 millions à 5 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays, dont
depuis 2015, c'est ça.
Depuis 2015, dont près de 2 millions sont en Colombie, près de 800 000 au Pérou, un grand nombre au Chili aussi, beaucoup sont partis en Espagne aussi, hein, les plus qualifiés après les États-Unis sont partis en Espagne. Donc là,
donc l'émigration vénézuélienne vers les États-Unis, c'est une émigration politique comme dans la première phase cubaine. D'ailleurs, il y a souvent eu des rencontres providentielles entre l'opposition à Chavez et l'opposition au castrisme lors de nombreuses manifestations en Floride, etc., etc. Mais c'est vrai que du côté vénézuélien, c'est beaucoup moins important. Je reviens sur, après cette parenthèse plus politique, cubano-vénézuélienne, je reviens donc sur les grands flux migratoires mexicains, centra-américains, économiquement. Et Stéphane, tu voulais poser une question à Virginie.
C'est une question après l'avoir écouté. À Virginie, à propos de, je crois, indépendamment évidemment de la migration sud-américaine qui est particulière et de la migration mexicaine qui est particulière, je voulais savoir, c'est plutôt cette migration centro-américaine, et j'ai cru comprendre, mais j'aimerais bien avoir vérification. Est-ce qu'on a d'une part des indications sur les profils sociologiques et les motivations des différents pays d'Amérique centrale, qui me semblent très différentes du Guatemala, du Salvador, du Honduras, du Panama aussi, et du Nicaragua. Et il me semble vraiment qu'il y a vraiment des profils tout à fait différents, qu'on englobe un peu globalement comme des migrants centro-américains. Mais est-ce qu'on peut peut-être donner, si on peut avoir ces indications, quelques indications là-dessus, à la fois en nombre, profil sociologique et aussi motivation, qui me semble assez différente.
Oui, oui. Alors c'est sûr que la migration panaméenne, par exemple, c'est plutôt une migration qui ressemble à la migration sud-américaine, c'est-à-dire c'est plutôt une migration qualifiée, hein, qui est assez faible, hein, c'est pas du tout les flux les plus importants. Aujourd'hui, la migration qui fait le plus parler d'elle, c'est la migration, ce qu'on appelle du triangle nord, hein, de l'Amérique centrale, c'est-à-dire le Guatemala, le Honduras et le Salvador, hein, qui sont les trois pays qui sont, enfin trois pays qui sont assez durement affectés par des situations de pauvreté tout à fait chroniques, une absence d'état social très fort. Si on remonte un petit peu historiquement, bien sûr, il y a eu d'abord les conflits intérieurs centra-américains qui ont joué un rôle aussi dans les départs et dans des motivations politiques au départ. Ensuite, il y a eu aussi des événements climatiques, je pense en particulier au cyclone Mitch, je crois que c'était, 97, c'est ça
Non, 97. Année 90, année 90.
97, je crois, non, Mitch, il me semble.
C'est pas grave,
je crois que c'est 97. Donc là, qui a en particulier très durement affecté le Honduras, par exemple, où il y a eu des statuts de... C'est pas vraiment réfugiés climatiques, mais disons, pour simplifier, on peut dire ça, des statuts qui ont été accordés aux États-Unis, qui ont permis à un certain nombre de migrants de ces régions-là de venir. Donc on a à la fois des migrations politiques, on a à la fois des migrations économiques, puis à la situation du Nicaragua qui est particulière, avec le Nicaragua qui, quand même, la majorité des migrants nicaraguayens ont plutôt émigré vers le Costa Rica. On est aussi sur des régions où il y a pas mal de migrations internes. Et on a toutes les migrations politiques liées au conflit des années 70, 70-80. Où on a plutôt la partie la moins favorisée de la population qui est partie travailler au Costa Rica et qui vit encore. Il y a plus d'un demi-million, entre un demi-million et un million de Nicaraguayens en Costa Rica. Et puis toute une partie qui est partie aux États-Unis, où là on a une migration qui est plus politique. Donc effectivement, on a un entremêlement à la fois de motivation économique, de motivation politique, et aujourd'hui quand même une immigration de la pauvreté sur ces 20 dernières années qui a fait beaucoup parler d'elle avec les caravanes de migrants, les enfants centra-américains, etc. Enfin, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Mais...
Le migrant centra-américain ou mexicain plutôt récent, c'est un homme jeune ? C'est d'abord un homme jeune ?
C'est toujours des jeunes, ça c'est sûr, ça c'est une caractéristique, mais c'est aussi beaucoup des femmes, c'est pas que des hommes, c'est aussi des femmes. Il se trouve que sur les routes de la migration et les fameux trains de la migration qui traversent le Mexique, la Bestia et ces migrations irrégulières récentes, c'est sûr qu'il y a une sélectivité qui se fait sur la route, parce que c'est difficile de traverser, donc c'est encore plus difficile pour des femmes qui subissent beaucoup d'agressions sexuelles sur les routes, mais c'est aussi des enfants. Il y a un certain nombre, il y a aussi beaucoup d'enfants qui partent seuls, la migration de ces enfants en 2014 a fait un peu l'actualité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis pour essayer souvent de rejoindre leurs parents qui avaient émigré avant eux aux États-Unis. Donc je dirais que c'est quand même des profils assez mixtes en termes de genre et à la fois de jeunes mais aussi de mineurs.
Alors justement, on déplace un peu la réflexion maintenant pour venir un petit peu aux politiques publiques qui entourent ces mouvements migratoires et qu'on peut considérer à différents niveaux. Alors première question, comment les États, alors par exemple centra-américains, qui perdent quand même des volumes de population extrêmement importants par ces flux migratoires, réagissent-ils ou ne réagissent-ils pas à ces flux ? Y a-t-il des réponses qui sont apportées ? Comment les élites politiques salvadoriennes, guatémaltèques, honduriennes, etc., regardent-elles ces flux migratoires ? Bien, je vais donc poser une autre question. Un prochain numéro de revue.
C'est difficile parce que en même temps, les pays latino-américains ont compris, bien aidés par les institutions internationales quand même, que les migrants, il y a eu une focale qui a été posée comme le migrant acteur de développement. Ça, c'est vraiment le tournant des fin des années 80, début des années 90, où le migrant, c'est un peu le héros du développement local qui, par les remises migratoires qu'il va envoyer à sa famille, va permettre de faire décoller les économies locales. Ça, c'est évidemment un discours politique qui, à l'épreuve des faits, résiste peu. Parce que certes, les migrants renvoient beaucoup d'argent à leur famille, on reviendra peut-être tout à l'heure sur un petit peu l'organisation de ces remises, mais en fait, ces remises, elles permettent surtout de réduire les situations de pauvreté dans les communautés dont les migrants sont originaires, pour leurs familles, mais elles accroissent aussi énormément les inégalités au sein du village, parce qu'en fait, c'est évidemment jamais les plus populations les plus pauvres qui partent, parce que ne serait-ce que pour pouvoir partir, il faut pouvoir payer le voyage, il faut pouvoir s'endetter, donc il faut pouvoir avoir un capital social qui permet d'avoir les relations qui vont permettre de s'endetter, ou bien il faut avoir une maison qu'on peut hypothéquer, etc. Donc c'est jamais les populations les plus démunies qui partent. Et les remises, ça crée aussi beaucoup d'inflation localement, donc beaucoup d'inégalités locales. Et ce qu'ont compris un certain nombre de pays, à commencer par le Mexique, c'est que pour que ces remises soient productives et que effectivement le migrant puisse être éventuellement un acteur du développement, il faut que ces remises soient accompagnées. Donc en fait, le Mexique, dès les années, ça commence en 1986, en fait, met en place une politique qui est d'abord testée dans l'état de Zacatecas, puis étendue au pays, c'est-à-dire ça commence vraiment dans ces états du centre-ouest qui sont ceux qui sont les plus marqués par la migration et où en fait on considère qu'un quart des foyers sont impactés par la migration, où se met en place la politique dite du 2 por 1, qui va devenir le 3 por 1, c'est-à-dire que pour chaque dollar qu'un migrant va réinvestir dans une activité productive dans son village ou dans la ville dans laquelle il revient, l'État du Zacatecas, puis l'État fédéral va apporter un dollar et un deuxième dollar, donc un dollar va faire 3 dollars, et ça va permettre de générer en fait des activités productives. Parce que de fait, les investissements sont assez peu, peu naturellement productifs. Donc l'image du migrant acteur de développement sans accompagnement politique, ça ne marche pas. Et sans doute, le pays au monde qui l'a le mieux compris, c'est la Chine. On sait que le décollage économique chinois doit énormément au réinvestissement de la diaspora chinoise qui ont été fortement accompagnés par l'État. Alors ça, c'est un volet.
Je trouve ça très intéressant. Je vais te laisser continuer, mais je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, ces fameuses remessas, que je ne traduisais pas par remise, mais ça se dit en français remise.
Oui, en français, on peut dire remise. D'accord. On dit transfert de fonds ou remise. Voilà. On peut dire remise.
Donc, en fait, ces envois d'argent, si vous avez vu le film d'ouverture hier soir dans la gare du Midi, vous voyez qu'à un moment donné, le personnage principal envoie 600 ou 800 dollars au Pérou, là, je ne sais plus combien. Bon, voilà, c'est typiquement cela. Et c'est vrai que c'est intéressant, ces précisions que tu nous donnes, parce que on a parfois des chiffres en tête qui sont des chiffres réels aujourd'hui. Par exemple, pour l'économie salvadorienne aujourd'hui, le poids des remessas, ça serait entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Donc on se dit, ah, c'est monstrueux, c'est très important, etc. Et tu nous dis bien que c'est important, mais c'est important à condition effectivement que ces retours d'argent, disons, ces transferts d'argent soient encadrés, accompagnés par l'État, sous peine qu'ils creusent des inégalités à l'échelle locale. Et je trouve ça très intéressant parce que je trouve que c'est presque contre-intuitif, mais au fond, ça dit la complexité de ces flux financiers. Mais je te laisse continuer sur ton second point.
Et le second point, oui, alors peut-être sur l'importance économique de ces remises, c'est les remises aujourd'hui, c'est en Amérique, sur l'Amérique latine, c'est entre 77 et 80 milliards de dollars, dont 30 milliards pour le seul Mexique. Donc effectivement, c'est important. À l'échelle de la place dans les PIB locaux, tu donnes l'exemple du Salvador, qui est sans doute le pays dans lequel le poids des remises est le plus important, parce que c'est aussi un tout petit pays, donc... c'est sur les petits pays que l'impact est le plus fort. L'autre pays, c'est Haïti. Si on considère qu'Haïti, c'est l'Amérique latine, ça, c'est un autre débat, où c'est plus de 40% du PIB qui est concerné par les remises. Mais au Mexique, finalement, c'est pas tant que ça. En fait, c'est même pas 5% du PIB, les remises. Pourtant, c'est 30 milliards de dollars. En revanche, ça représente, à l'échelle de la planète, les remises migratoires vers les pays dits à revenus moyens ou faibles. Ça représente autant que les investissements directs à l'étranger, ces fameux investissements directs à l'étranger dont on considère qu'ils sont quand même extrêmement porteurs de développement, c'est pas plus que les remises. Et les remises, c'est 4 fois le montant de l'aide publique au développement. Donc c'est quand même des chiffres tout à fait considérables. Le deuxième volet que je voulais évoquer est pas tant économique que politique, c'est-à-dire que les États latino-américains ont aussi compris que ces diasporas, si on peut considérer que certaines sont des diasporas, ce sont aussi possiblement des atouts pour pas seulement pour les économies locales, mais aussi pour les politiques locales. Donc il y a aussi, c'est un mouvement mondial, mais qu'on observe aussi à l'échelle de l'Amérique latine, une considération de plus en plus importante par les États de leurs citoyens résidant à l'étranger, qui passe par notamment le développement du droit de vote à l'étranger pour une partie de plus en plus importante de citoyens, qui vont peser effectivement dans les élections locales, hein, qui vont peser de plus en plus dans les élections locales. Et qui vont, pour certains, revenir d'ailleurs, prendre des charges politiques, hein, dans leur pays, à différents niveaux, hein, que ça se passe au niveau des villages ou que ça se passe à des niveaux plus importants.
Ok, alors deuxième volet de ma question sur les politiques publiques. Évidemment, il y a des lieux de départ, mais il y a des lieux d'arrivée, les États-Unis, mais il y a des lieux de passage aussi. Et notamment, effectivement, on a sans doute tous en tête les images de ces caravanes de migrants. Souvent centra-américains, traversant le Mexique à destination des États-Unis, ce qui est devenu aussi un problème de politique publique pour le Mexique. Et il y a eu des réponses spécifiques à ça ou
Alors, oui, il y a des réponses à ça qui impliquent évidemment beaucoup les États-Unis, parce que en fait, un des enjeux aujourd'hui, c'est que, pour les États-Unis, c'est de faire en sorte que ces migrations centra-américaines, qui sont de plus en plus nombreuses, ben, restent du côté sud de la frontière. Et donc il y a eu plusieurs mesures, hein, qui ont été prises par Trump par rapport à ça, par le gouvernement Trump, en particulier, parce qu'un des changements qu'on peut observer quand même depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile aux États-Unis qui viennent en particulier des pays centra-américains. Il y avait en fait très peu de demandeurs d'asile il y a une dizaine d'années et leur nombre a été multiplié par 15, hein, en l'espace de 10 ans. Et ces demandeurs d'asile aujourd'hui, ils sont bloqués du côté mexicain de la frontière. Les États-Unis ont décidé de seulement autoriser 2000 dépôts de demandes de visa, enfin de demandes d'asile par jour, ce qui contribue à bloquer les centres américains du côté sud de la frontière. Et en fait, le Mexique aujourd'hui est en train d'appliquer un petit peu, c'est un peu schématique, mais on retrouve un petit peu le même processus d'externalisation des frontières et de la gestion des frontières qu'on a en Europe, hein, avec la manière dont l'Europe externalise sur les pays du Sahel aujourd'hui la gestion du contrôle migratoire en leur faisant reporter sur eux finalement les flux de transit. Ben, les États-Unis font un peu la même chose avec le Mexique, qui du coup est amené à contrôler fermement sa frontière sud. Hein, et la frontière sud du Mexique est désormais quasiment fermée. C'est des milliers de personnes de la garde nationale mexicaine qui contrôlent la frontière sud pour essayer d'empêcher justement ces passages. Et López Obrador a notamment
le président mexicain.
Le président mexicain avait notamment promis un plan de développement, hein, de l'Amérique centrale, un grand plan de développement pour l'Amérique centrale, pour essayer de maintenir les migrants centra-américains chez eux et éviter les passages. Le fait est qu'aujourd'hui, le Mexique, qui s'est toujours pensé comme un pays d'émigration, et qui le reste, hein, bien sûr, est en fait aujourd'hui pas seulement un pays de transit, mais de fait un pays d'arrivée. Et que la question de l'intégration socio-économique de ces populations qui, de fait, restent au Mexique est tout à fait cruciale et que, voilà, que y a énormément de, finalement, d'acteurs non gouvernementaux, religieux, ONG, etc., qui interviennent pour essayer d'aider ces populations, sans compter, évidemment, toute la question des trafics et des CETAS et autres groupes qui contrôlent les routes, qui sont aussi une des autres données du problème très importante au Mexique.
Avant d'en venir au troisième volet, finalement, à savoir les politiques publiques des États-Unis, cette fois, face au mouvement migratoire, une petite question, est-ce qu'il y a des flux de retour ? Est-ce qu'il y a, et as-tu une idée vaguement du nombre, donc en gros des migrations plutôt provisoires, qui durent 2 ans, qui durent 3 ans, et des retours ?
Alors, la circulation migratoire a toujours été une réalité. D'ailleurs, on le voit bien dans le film. Finalement, on a beaucoup de familles qui circulent, qui vivent de part et d'autre de la frontière. Quand on dit qu'il y a 60 millions d'hispaniques aux États-Unis, 40 millions d'entre eux sont américains, sont nés aux États-Unis. Enfin, même plus sont américains, mais 40 millions d'entre eux sont nés aux États-Unis. Et donc, cette circulation, elle a toujours existé. Donc, il y a des circulations. Maintenant, retour, c'est pas tout, la question du retour, qui est celle d'un retour plus durable, pas seulement saisonnier, pas seulement pour un an ou deux.
Je parlais de retour durable.
Celle-là, c'est vraiment un phénomène qui est nouveau et qui est important, qu'on date environ de la fin des années 2000, c'est-à-dire après la crise économique de 2008, avec quand même ces années 2000 qui sont, on n'a pas parlé de 2001 et de la suite de 2001, des attentats du 11 septembre sur la politique migratoire américaine, mais évidemment, après 2001, la politique de renforcement de la frontière, qui en fait avait commencé, je vous ai dit, en 86, mais qui s'était beaucoup développée à partir de 94, signature de l'ALENA et toutes ces opérations qui prenaient des noms gatekeeper, safeguard, hold the line, dans les années 90 où on commence en fait à construire ce mur. Toutes ces politiques-là, elles vont se durcir après 2001 aux États-Unis, de différentes manières, on pourra peut-être y revenir. Mais donc il y a à la fois en fait une crise économique en 2008 qui est très forte, qui affecte évidemment beaucoup les populations migrantes. Il y a à la fois un climat anti-immigration qui se développe de manière très forte. En même temps, il y a aussi une période de croissance économique au Mexique dans cette décennie-là. Et il y a un certain nombre de facteurs qui vont plus effectivement la dangerosité croissante de la frontière, parce que plus on construit des murs, ça n'a jamais empêché de passer. Par contre, ça rend le passage beaucoup plus dangereux, comme on le voit avec le récit là, du passage par l'Arizona, effectivement, et on constate qu'à mesure que le mur a été construit, il y a eu de plus en plus effectivement, de morts dans le passage de la frontière, parce que les gens passent aujourd'hui par le désert et donc par des routes de plus en plus compliquées. Il y a aujourd'hui un solde migratoire à la frontière Mexique-États-Unis qui est nul. Et en fait, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et c'est quelque chose qui semble se stabiliser depuis plusieurs années. On estime à environ 300 000 les Mexicains qui seraient rentrés depuis 10 ans au Mexique, depuis les États-Unis. Et on a un solde migratoire qui est vraiment quasi nul. C'est-à-dire qu'il y a des entrées, bien sûr, il continue à y avoir des entrées, beaucoup moins qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire les flux maximum, c'était presque 1,7 million d'entrées par an. Là, on est beaucoup moins. Mais on est sur une stabilisation. Ce qui pose un problème de politique publique au Mexique, qui est très important, c'est que le Mexique se retrouve aussi face à un retour de population qui en fait sont mexicano-américaines, parce que beaucoup de ces populations sont mexicano-américaines, et en particulier de scolarisation de 600 000 gamins qui ont commencé leurs études aux États-Unis, qui reviennent au Mexique avec leur famille et qui ont été scolarisés en anglais, arrivent à l'école mexicaine, mais comme le Mexique ne s'est jamais pensé comme un pays d'immigration, ne sait pas comment faire pour scolariser des enfants qui parlent tous mexicains, ils parlent tous espagnol, mais ils ne savent pas l'écrire, en fait. Ils ont été scolarisés en anglais, et il y a un gros problème que l'éducation nationale mexicaine, pour l'instant, a beaucoup de mal à prendre à bras-le-corps. C'est comment on fait, pour intégrer ces jeunes, aujourd'hui, dans le système scolaire mexicain, alors qu'ils sont considérés comme étant des mauvais élèves, ce qu'ils ne sont pas. C'est juste qu'ils écrivent une autre langue.
Alors, c'est très intéressant quand même. On serait donc à un point de basculement, c'est-à-dire qu'au fond, après, comme tu le disais, c'est presque historique, après des décennies et décennies de flux vers les États-Unis, on aurait aujourd'hui un point d'équilibre qui augure peut-être d'un renversement éventuellement de tendance. Mais en tout cas, la logique qui est à l'œuvre aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle qu'on pouvait encore observer il y a 10 ans ou il y a 20 ans,
ouais.
C'est ce que tu nous dis.
Ouais, c'est totalement historique. Totalement historique.
À ce stade, je me tourne à ce stade de la discussion qui va continuer, je me tourne vers la salle et je mets mon masque. Y a-t-il des questions, des interventions, des commentaires ? Non ? Plus tard alors ? Alors, troisième point, et là tu l'as déjà anticipé, c'est... face à cela, donc, quelles ont été les politiques publiques des États-Unis ? Alors, j'ai cru comprendre dans les éléments qui ont été donnés depuis le début de l'après-midi que donc il y a un point de basculement, un point de durcissement en 1986, donc au milieu des années 80, et que finalement depuis, on serait dans une tendance au durcissement des politiques migratoires des États-Unis, à une fermeture croissante de l'espace américain. En gros, c'est ça que j'ai compris. Bon. Et d'autre part, la question que je voudrais poser, c'est aussi comment, très concrètement, sont traités les migrants flandais. Donc là, on parle bien des migrants, hein, on ne parle pas de la vaste communauté dite hispanique, on parle des migrants. Comment sont-ils traités, notamment aujourd'hui, dans l'Amérique de Trump? Et je pose cette question parce que j'ai lu avec une certaine stupéfaction dans le Guardian, il y a 3 ou 4 jours, un article qui racontait que l'État mexicain venait de lancer une enquête auprès du tribunal pénal international parce que les États-Unis de Trump sont fortement soupçonnés d'avoir stérilisé de manière forcée des migrantes mexicaines qui étaient dans des centres de rétention, là, ces derniers mois. Donc on aurait, si vous voulez, donc au-delà des politiques publiques d'ouverture ou de fermeture de la frontière, quelles sont aussi les politiques de traitement des migrants lorsqu'ils sont installés sur le territoire?
Alors là, vraiment, c'est le tournant, c'est 2001 quand même. Hein, parce qu'en 2001, en fait, juste avant les attentats du 11 septembre, les États-Unis étaient sur le point de signer avec le Mexique. Ils étaient en train de construire en fait une nouvelle réforme de la politique migratoire qui aurait pu permettre la régularisation d'un certain nombre de sans-papiers et qui a été complètement battue en brèche effectivement par les attentats du 11 septembre et ce qui s'en est suivi. Alors tu dis l'Amérique de Trump, mais en fait je pense que vraiment la politique de l'Amérique de Trump dans certains domaines, elle est tout à fait dans la continuité de la politique, alors on va nuancer, mais quand même de l'Amérique d'Obama, qui n'a pas toujours été tendre, qui n'a pas toujours une politique migratoire très ouverte, en fait. Entre 2009 et 2014, il y a eu une multiplication par 4 des expulsions de migrants sans papier de l'autre côté de la frontière, ou renvoyés dans leurs espaces d'origine. On est passé à pratiquement 400 000 expulsions par an, ce qui est tout à fait considérable, et plus de 2,5 millions d'expulsions sur la période 2009-2014. Donc à la fois il y a eu ça, c'est-à-dire un vrai en fait durcissement des contrôles aux États-Unis, qui est passé notamment par le fait qu'en 2002, il y a eu une réforme, la création du Department of Homeland Security, DHS, qui en fait regroupe à la fois les institutions de contrôle de la frontière extérieure des États-Unis et du contrôle des populations, des polices intérieures. Ce qui veut dire que les fichiers de contrôle aux frontières sont désormais croisés avec les fichiers internes et que par le biais ensuite de tout un tas de politiques qui ont souvent été validées par un certain nombre d'États, en fait le contrôle des populations sans papier a été plus important à l'intérieur du territoire national. Ça a été aussi marqué par en 2005 le vote du Real ID Act, qui permet des contrôles renforcés dans les entreprises, pour les employés, qui pour une partie d'entre eux, donc, et en particulier pour traquer les populations sans papier. Mais en fait, jusque dans les années 2010, aux États-Unis, il est totalement interdit d'arrêter quelqu'un sans raison pour lui demander ses papiers. Le contrôle d'identité intempestif aux États-Unis est interdit jusqu'à cette période. Et c'est progressivement, à partir d'une loi d'abord qui est votée en Arizona en 2010, puis ensuite de ces processus de contrôle qui sont généralisés à l'intérieur des États, que progressivement les contrôles vont être plus fréquents et qu'on va constater du coup une augmentation aussi des expulsions de populations sans papier des États-Unis vers l'extérieur. Mais ça, c'est qu'un tout petit morceau de la réponse à la question, je crois, que tu m'as posée, qui était un peu celle des conditions de vie, c'est ça?
Oui, enfin, en tout cas, des politiques publiques face aux migrants,
oui,
aujourd'hui.
Alors, autre politique publique importante, pardon, et pour nuancer un peu le fait que les politiques d'Obama étaient dures, il y a eu quand même, en 2012, la création du DACA, c'est-à-dire le Deferred Action for Childhood Arrival, qui est en fait cette mesure que la Californie essayait de faire passer depuis 10 ans, que les députés américains essayaient de faire voter aussi et qui n'arrivaient pas à passer sous Obama, qui concerne cette population qu'on appelle les Dreamers. Les Dreamers, ce sont ces jeunes migrants sans papier qui ont entre 16 et 30 ans, qui ont fait leurs études aux États-Unis, qui ont étudié aux États-Unis, qui font leurs études, qui travaillent, et pour lesquels le gouvernement, enfin les démocrates, voulaient obtenir un statut spécifique. En 2012, avant de partir, Obama impose par décret le DACA, qui permet donc à plus de 1 million et 1,5 million de jeunes entre 16 et 30 ans d'avoir un statut provisoire de 2 ans qui leur permet d'ouvrir un compte en banque, de travailler légalement, d'être, c'est pas une reconnaissance pleine et entière, mais c'est quand même un premier pas. Et c'est ce statut en fait que Trump aimerait bien remettre en question. Ce statut en fait, il est renouvelé depuis 2012, hein, ouais. Mais c'est un des points de.
Voilà. Juliette, vous voulez intervenir sur ce point-là?
Ah, je crois mentionner en fait un autre acteur des politiques publiques, même si les marges de manœuvre sont assez limité, c'est les villes, puisque à la fin du mandat d'Obama et depuis le mandat de Trump, certaines villes vont se déclarer villes sanctuaires pour les migrants et vont essayer de se coordonner à l'échelle nationale pour contrer justement ce dont tu parlais, le renforcement des contrôles, etc. etc. Alors ça, même si l'impact important. Est assez limité, mais en termes symboliques, ça
oui, parce qu'ils donnent des cartes d'identité, en fait. C'est aussi le fait de donner des cartes d'identité municipales. Alors évidemment, New York, San Francisco, Los Angeles, beaucoup de grandes villes sont rentrées dans ce mouvement de villes sanctuaires et qui justement disent qu'elles ne vont pas autoriser sur leur territoire les contrôles pour les populations et autoriser donc la présentation d'une carte d'identité municipale pour tout résident, quel que soit en cas d'arrestation, en cas de contrôle, etc. Donc il y a en fait un feuilletage géographique assez fin qui rend complexe en fait l'analyse de ces politiques qui sont à la fois pro et anti-immigration, avec effectivement des mouvements, alors pour le coup nativistes, les mouvements anti-immigration, qui vont être le plus fort dans les États aussi où l'immigration est la plus forte, à commencer par l'Arizona et le Nouveau-Mexique, qui sont ceux sur les États dans lesquels les milices et les partis nativistes sont les plus importants.
Non mais justement, parce qu'effectivement la situation est très complexe du fait du millefeuille institutionnel des États-Unis, de l'échelle fédérale aux échelles les plus locales, en passant par les États fédérés. Et justement, enfin, je trouve que ta synthèse est très, très claire de ce point de vue-là, parce qu'on comprenait à la fois les logiques très générales et toutes les exceptions locales qui pouvaient intervenir. Il y a des questions, des commentaires à ce sujet? Alors dites-moi la question, je ne peux pas vous donner le micro, excusez-moi. Alors, les États-Unis ont-ils mis en œuvre une politique spécifique à destination des plus diplômés? C'est ce qu'on appelle une immigration sélective.
Oui, tout à fait. Et ça, justement, on peut dire que, de manière générale, en fait, l'immigration aux États-Unis, c'est une immigration qui est assez caractéristique de la bipolarisation sociale de la migration, c'est-à-dire que il y a à la fois une migration de populations relativement pauvres, enfin en tout cas peu fortunées, qui vont effectivement alimenter ce qu'on appelle les 3D jobs, dirty, dangerous, difficult, tous les travaux un peu que personne ne veut faire en gros. Et puis l'autre partie, c'est cette immigration très qualifiée qui est aussi, alors qui est notamment issue d'Amérique du Sud, mais qui est aux États-Unis beaucoup plus issue d'Asie. C'est effectivement l'immigration asiatique, en particulier notamment l'immigration indienne, mais pas que, mais il y a aussi des élites brésiliennes, etc. En fait, si on regarde les 45 millions d'immigrés aujourd'hui aux États-Unis, on a à peu près 10 millions de très qualifiés et 10 millions de vraiment très peu qualifiés. Donc on a en fait une assez forte bipolarisation sociale de cette immigration, et au Canada c'est la même chose, la sélectivité sociale de l'immigration est forte. D'ailleurs, si vous êtes sud-américain et que vous voulez aller aux États-Unis, si vous avez une maison, que vous payez des impôts, que vous avez des bons revenus, etc., le visa il va vous être accordé très facilement. Ce qui est difficile, c'est de réunir toutes ces conditions pour pouvoir partir.
Alors, je tourne une page, demi-page, je change un tout petit peu de thématique, mais il faut, malheureusement, le temps passe. On approche dangereusement des élections américaines dans quelques semaines, et donc je voudrais vous demander où est-ce qu'ils votent ces latinos. C'est possible de dire où est-ce qu'ils votent ces latinos. Par exemple, les Cubains de Miami, ils votent où, Jean?
Enfin, les Cubains de Miami, c'est une bêtise. Vote à Miami. Mais
oui. Ils sont. Pardon, c'est vrai que ma question n'est pas très bien formulée. Ils votent pour qui? Excusez-moi.
Ils votent pour qui? Oui. On a un exemple. Bon, je ne sais pas. On n'a pas de réponse véritablement à ça. On sait qu'il y a des différences de génération. C'est-à-dire que les vieilles générations de l'exil politique anticastriste. 80 ans d'âge, cette vieille génération vote le plus à droite possible. Leurs enfants et surtout leurs petits-enfants se répartissent d'une manière relativement semblable à celle du reste de la population de Floride, pour ne pas parler des États-Unis. Donc là-dessus, il n'y a pas de... simplement, là encore, on est dans une situation totalement... Enfin, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est vrai que le sujet cubain, lui, est totalement déconnecté de tout cela. Pendant toutes les années, par exemple, Obama et jusqu'en 2014, les Américains pratiquaient par rapport aux Cubains une politique qui était de pieds mouillés, pieds secs. Alors, ça ne vous dit rien, mais je vous explique en deux mots de quoi il s'agit, parce que c'est assez intéressant. Tout Cubain qui essaie de sortir d'une manière illégale de son pays, il pouvait sortir de manière légale, il pouvait demander un visa. Bon. Et surtout à partir de 2011, il n'y avait plus de problème. Le problème étant celui du visa, mais pas celui de l'autorisation par le gouvernement cubain. Mais tout Cubain qui voulait sortir, qui prenait le bateau pour rejoindre les États-Unis, pouvait être arrêté soit par la garde-côte cubaine, soit par les garde-côtes américaines. Si les garde-côtes américains les arrêtaient en pleine mer, ils les renvoyaient à Cuba. Avec une espèce de suivi pour vérifier qu'il leur arrivait rien de grave. Mais s'ils mettaient le pied sur le sol américain, ils étaient automatiquement, en tant que Cubains, considérés comme carte verte, résident, sécurité sociale, enfin tout. Ils étaient régularisés immédiatement, pieds mouillés, pieds secs. Ce qui était d'ailleurs quelque chose d'assez frappant, parce que c'était une provocation à l'immigration dangereuse. Il s'est trouvé que cette loi a été abolie, ce décret a été aboli, un décret, pas une loi, a été aboli par Obama et n'a pas été rétabli par Trump. C'est assez intéressant parce que là-dessus, le discours anti-immigration de Trump l'a emporté sur le discours anticastriste de Trump. C'est le sujet sur lequel il y a une toute petite contradiction. Un petit mot sur le vote des Cubains à Miami. Il a eu un rôle essentiel lors de l'élection de George Bush Jr. contre Al Gore. Vous vous rappelez certainement que ce n'est pas une première.
Donc en 2000, si j'ai bonne mémoire.
C'était en 2000, c'est cela. Gore avait une majorité à la fois de vote populaire, mais aussi de grands électeurs s'il gagnait la Floride. Et le jeu de Floride s'est joué sur un tout petit bureau de vote. Tout petit bureau de vote, vous vous rappelez, dame qui regardait à travers la lumière si le bulletin était bon ou pas, enfin des quelques milliers de voix, le comté de Dade aux États-Unis, en Floride, et c'est ce petit bureau de vote qui est probablement très lié, probablement, pas de preuve absolue et scientifique bien sûr, très lié aux événements cubains, qui a basculé le vote de la Floride et fait élire George Bush. Donc, il y avait eu juste auparavant un événement typique de l'immigration qui était là aussi, ça prend une mesure, enfin une proportion énorme, alors que ça concerne un enfant, c'est dramatique, mais c'est un enfant, le petit Elian, petit garçon que sa maman avait mis avec elle sur un bateau. La mère était morte en pleine mer, l'enfant avait été récupéré par sa famille, émigré à Miami. Mais le papa qui lui restait à Cuba m'a demandé à récupérer son enfant. L'enfant avait 10 ans. Donc, il y a eu une bataille juridique énorme, et puis finalement le droit du père l'a emporté, et c'était sous Clinton, à la fin du mandat Clinton, les Américains ont rendu le petit Elian qui vit aujourd'hui, qui est un citoyen normal à Cuba, qui vit à Cuba, mais à l'époque, ça a été absolument dramatique comme effet loupe sur le vote des Cubains, et c'est l'un des éléments qui a fait basculer le vote en faveur de George Bush Jr.
Stéphane, tu voulais réagir de manière plus générale. Donc, cette question du vote latino et peut-être ensuite Virginie sur cette question. Donc, à la fois, comment vote-t-il? Et on a bien compris le premier niveau de réponse que tu donnais pour les Cubains, mais je pense qu'il vaut pour tous, c'est-à-dire aussi, ça dépend des générations, c'est évident qu'au fond, un hispanique de 3e ou 4e génération, en fait, va voter aussi diversement que n'importe quel Américain, effectivement. Bon, mais est-ce qu'on a d'autres éléments quand même, et avec, excusez-moi, je termine juste ma question, avec une question sous-jacente qui est, voilà, le vote latino est-il un enjeu réel pour l'élection qui vient ?
À mon avis, il est essentiel, mais il est essentiel pour tous les présidents nord-américains depuis toujours. Et comme Jean l'a évoqué, tout président américain, quel qu'il soit, démocrate ou républicain, a besoin de cette communauté cubano-américaine qui représente 1,5 million de citoyens et dont il ne peut pas se passer. Aucun ne peut s'en passer. Le seul qui puisse se passer de cette communauté, c'est Obama. Parce que l'État de Floride, pour sa première élection, il avait été élu largement par le vote démocrate en l'État de Floride. Et le second mandat, il n'était pas rééligible, donc il pouvait se permettre ce rapprochement cubano-américain. Mais il est évident que non seulement cette communauté est très importante dans l'économie de l'État de Floride, qui occupe peu ou prou, dit-on, 40% à peu près des postes essentiels de l'économie de l'État de Floride. Donc c'est vraiment extrêmement important à tous les niveaux, mais c'est aussi de plus en plus quelques hommes politiques majeurs dans le jeu politique américain qui sont démocrates, enfin qui sont démocrates et républicains d'ailleurs, ou sénateurs ou députés, mais qui sont essentiels pour faire passer des réformes, et en particulier pour Trump, qui non seulement était dans une position soutenu par une majorité républicaine, mais un peu fragile, et il ne pouvait pas effectivement se faire passer de ces appuis-là. Mais il est entre les mains de ces hommes-là, Marco Rubio, Díaz-Balart, quelques autres, essentiels.
Est-ce que Trump, qui a quand même, indépendamment des politiques publiques qui ont été mises en œuvre par Trump, il y a aussi eu quand même, dans de nombreux discours, une stigmatisation, je dirais la reprise de vieux clichés sur le migrant latino, etc., etc. Est-ce que, si on te suit sur l'importance du vote latino, Trump ne s'est pas quand même un peu tiré une balle dans le pied, justement, en stigmatisant systématiquement les latinos depuis 4 ans, Virginie, ou qui veut répondre à ça ?
Très vite, il y a une différence entre le vote latino et le vote cubain. Voilà, je crois que là, vraiment, il faut bien le percevoir. Et dans les politiques, c'est pareil. Lorsque nous avons... Quand on voit, par exemple, l'un des effets des décisions de Trump qui sont revenus sur les avancées d'Obama dans les relations américano-cubaines, il y a simplement la possibilité pour les cubano-américains des États-Unis de rentrer à Cuba, voir leur famille. Ce droit a été extrêmement restreint, violemment restreint. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais venir qu'une fois tous les 2 ans pendant un temps précis. Donc le phénomène de retour qu'on voyait, que beaucoup on voyait des Cubains de l'exil, rentrer à Cuba, créer leur entreprise ou aider leur famille à créer leur entreprise, ça c'est fini avec Trump. Donc c'est là où effectivement il faut distinguer entre le discours anti-immigration général et la politique latino et le phénomène cubain.
Ok. Virginie ?
Le vote latino a toujours été majoritairement démocrate. Hein, c'est-à-dire que globalement, c'est à peu près les 2/3 du vote latino qui est démocrate et un petit tiers qui est républicain, à l'exception effectivement de la communauté cubaine. Et on peut peut-être dire aussi, je pense, de la communauté vénézuélienne qui est quand même très ancrée à droite aux États-Unis. Et ça, c'est quand même vraiment l'État de Floride qui est particulier, où là, les derniers sondages donnent à Trump presque 40 points d'avance sur Biden au sein de la communauté latino de Floride. Donc, effectivement, la Floride, qui est quand même un État tangent, le vote latino, enfin, qui est un swing state, quoi, hein, là, le vote latino est particulièrement important. Après, les hispaniques, c'est quand même aujourd'hui la première minorité des États-Unis devant les Noirs, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est pratiquement maintenant un Américain sur 5 qui est hispanique, et il n'y a plus que 60% de blancs, et les blacks, c'est 15% à peu près, hein, la communauté afro-américaine.
On dit afro-descendant. Hein,
afro-descendant, si pardon. Et donc, aujourd'hui, là, pour ces élections-là, c'est 32 millions. Donc, sur les 60 millions d'hispaniques, il y a 32 millions de votants. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, c'est le groupe votant le plus jeune des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% de ce vote latino qui sont des gens qui ont entre 18 et 35 ans. Et c'est le groupe le plus jeune. Hein, la médiane d'âge, c'est 30 ans. Et sur les 10 prochaines années, il va y avoir chaque année 1 million de latinos en plus qui vont rentrer sur le marché des votants, enfin qui vont avoir l'âge de voter. Donc ça va devenir un enjeu en fait d'autant plus de plus en plus important aux États-Unis. Mais c'est vrai que quand le 18 août à Yuma dans l'Arizona, on a le discours de Trump qui qualifie les migrants de murderers et de rapistes, hein, de violeurs et de tueurs, bon, on se dit que finalement, enfin, ce vote, il est quand même, il est difficile de renverser la balance. On sait aussi que le vote latino, aujourd'hui, les derniers sondages montrent bien que les latinos soutiennent beaucoup Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter, 7 sur 10 d'entre eux. N'oublions pas aussi que parmi ces hispaniques, il y a aussi beaucoup d'afro-hispaniques, enfin je veux dire toutes les populations caribéennes, portoricaines, dominicaines, etc., qui sont quand même extrêmement importantes, en particulier sur la côte est, hein, parce que les caribéens sont très très implantés sur la côte est, jamaïcains, etc. Bon, ben, c'est à la fois des latinos et en même temps, hein, ils se reconnaissent aussi souvent dans les afro-descendants. Donc on a aussi une collusion sur certains segments, enfin on a aussi de votes qui se rencontrent. Donc je crois que c'est un enjeu important, mais je pense qu'effectivement, à part sur la communauté, sur la communauté cubaine, c'est un vote qui a toujours été quand même, enfin historiquement sur les 50 dernières années, c'est toujours à peu près deux tiers de ceux qui votent démocrate.
Okay. Encore une question piège. Ils croient en quoi, ces latinos? Ils sont toujours majoritairement catholiques?
Oui, ils sont toujours majoritairement catholiques, même si il y a aussi
des processus de diversification religieuse. Ouais. Non, je pose cette question parce que ça m'amène un petit peu au dernier point, disons, de la réflexion, qui est presque une remise en cause du thème de notre journée, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire encore cette partition entre États-Unis et Amérique latine, donc cette Amérique latine dont je rappelais ce matin qu'elle avait été définie comme telle par opposition aux États-Unis parce que les États-Unis étaient anglo-saxons de peuplement et protestants, alors que l'Amérique latine était latine et catholique. Or, quelles sont les évolutions récentes de part et d'autre du Rio Grande ou du Rio Bravo, selon la rive sur laquelle on se place? Premièrement, on se rend compte que l'Amérique latine est de moins en moins catholique et de plus en plus protestante, évangélique, ce qui touche quand même à un de ces éléments définitionnels très importants. Bon, deuxièmement, quand on avait défini cette Amérique latine-là au milieu du 19e siècle comme latine, on avait évidemment fait l'impasse, donc en fait on pensait à quoi ? Au peuplement colonial espagnol ou portugais, à des mouvements migratoires du 19e siècle, à part que, donc on pensait aux Italiens, etc., etc., à part qu'on faisait l'impasse sur, évidemment, les populations indiennes, mais aussi sur les populations métisses. Donc, au fond, les éléments de définition de cette Amérique latine au milieu du 19e siècle, aujourd'hui, semblent très largement obsolètes à l'heure de la reconnaissance d'un certain nombre de communautés au sein des populations. Et puis, inversement, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis à l'aune de cette journée? Une sorte de latinisation des États-Unis, puisque d'abord on a l'implantation des hispaniques, mais aussi une catholicisation des États-Unis, dans une certaine mesure, alors que le catholicisme existait évidemment aux États-Unis. John Fitzgerald Kennedy était catholique, mais enfin a toujours été minoritaire. Donc, au fond, est-ce que finalement on n'est pas en train d'assister à un brouillage fondamental non pas des frontières géographiques, mais des frontières culturelles? Est-ce que cette réflexion vous paraît totalement idiote de ma part, ou au contraire vous inspire? J'aime bien poser des questions comme ça en fin de journée quand ils sont fatigués, en fait.
C'est franchement pas idiot, on pourra dire américain, sans dire nord-sud, etc. Non, je crois que c'est un phénomène qu'on remarquait beaucoup, qui est lié aussi au recul de l'influence de l'Église catholique, alors là, de manière générale, enfin bon. Mais c'est vrai que lorsque je revois, à titre personnel, la première fois que j'ai vécu véritablement, je laisse de côté le cas cubain qui est un qui est à part, où Cuba, où l'Église catholique n'a jamais été autre chose qu'une Église espagnole. D'ailleurs, 80% des prêtres cubains au moment de la Révolution étaient des prêtres espagnols. Ils ont été expulsés, mais comme étrangers,
espagnols et franquistes.
Espagnols et franquistes à l'époque, oui. Il y avait peu de catholiques anti-franquistes dans ce milieu-là. Donc, laissons de côté Cuba, qui n'a jamais été, ou la Santeria, ou l'espèce de religion proche des Haïtiens d'origine africaine, est dominante. Donc, l'Église catholique a une influence politique, notamment au moment du rapprochement avec les États-Unis, grâce au pape François, mais c'est très faible. Dans le reste de l'Amérique latine, c'est totalement différent. Je me rappelle de l'énorme poids de l'Église catholique chilienne quand je suis arrivé au Chili, où j'ai commencé mon temps de travail, c'était dans les années 80, début des années 80. L'Église catholique avait un poids considérable. Aujourd'hui, elle est totalement détruite, défaite, en miettes, à la fois par la montée, pas par ses propres fautes ou ses propres crimes, et par la montée des évangéliques.
D'ailleurs, alors, permets-moi de t'interrompre parce que je fais une petite parenthèse, je reviens en arrière. On me posait la question, c'était Jean-Marc, sur la question de la colonisation, de l'impérialisme religieux des États-Unis. Mmh. Et je t'ai répondu tout à l'heure en te disant il y a deux vagues. Il y a une vague, effectivement, d'implantation d'églises nord-américaines, etc. Et puis, à partir des années 70, quelque chose de plus autochtone, de la naissance de protestantisme, d'un authentiquement latino-américain. Et mes collègues m'ont dit non, t'as tort, t'as fait une réponse brésilienne. Et c'est peut-être vrai. Ce que je t'ai répondu, c'était peut-être un peu trop brésilien. Ça, c'est la dynamique vraiment qu'on note au Brésil. Mais en vérité, Virginie et Geneviève dans la salle me disaient qu'au Chili, dans les Andes, en Bolivie, apparemment au Paraguay également, les dynamiques missionnaires parties d'églises nord-américaines sont encore extrêmement actives dans les années 80, dans les années 90, aujourd'hui encore dans une certaine mesure. Sans compter qu'à côté des églises protestantes nord-américaines, il y a les Mormons, il y a toute une série de groupes religieux, des témoins de Jéhovah extrêmement présents, et que, en fait, cette dynamique de nord-américanisation du champ religieux, disons, est sans doute plus active, disons, que je ne l'ai dit tout à l'heure, dans certains pays, Chili, Andes, que le terrain que je connais mieux de ce point de vue-là, qui est le terrain brésilien. Je voulais juste donc corriger ça. D'autres réactions sur ce que disait Juliette?
Peut-être sur... on est un festival de cinéma, donc se poser la question des productions culturelles aux États-Unis et où sont présents des latino-américains ou des latino-américains soit qui ont émigré, soit qui sont nés aux États-Unis. Et j'ai pas de réponse. On constate juste une plus grande visibilité d'acteurs, de réalisateurs, d'actrices et de réalisateurs... Pas encore de réalisatrices. Dans le paysage de l'industrie cinématographique états-unienne, dont on a vu qu'elle était une dimension importante pour penser l'impérialisme américain et l'américanisation. On a juste un exemple, notamment dans les années 2000, c'est une série très populaire aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, notamment en Amérique latine, c'est Desperate Housewives, et il y a une famille... voilà, il y a Eva Longoria et je ne sais pas quel est le nom de l'acteur, mais qui sont donc mexicains, originaires du Mexique, qui jouent un peu le rôle des parvenus dans, donc, je ne sais pas si vous connaissez la série, mais qui se déroule dans une banlieue.
On regarde que des trucs sérieux, nous, Juliette.
Bah oui, mais alors, tu fais de l'histoire culturelle et l'histoire populaire, la culture populaire ne t'intéresse pas, ça ne va pas du tout. C'est très intéressant parce que, et je rebondis sur le documentaire qu'on a vu tout à l'heure, sur les représentations croisées, et à un moment donné, il y a ce couple d'États-Uniens de souche, on va dire. Oui, c'est bien, mais le problème, c'est qu'ils ont leurs propres valeurs, ils ne s'intègrent pas vraiment, et notamment, il y a la famille. qui reste au-dessus de tout. Et dans cette série-là, effectivement, la famille est très importante pour l'homme et elle s'en émancipe en fait petit à petit, tout en véhiculant un certain nombre de clichés sur la mexicano-américaine dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de s'exprimer. Finalement, c'est la maison où il y a le plus de vie. Donc, voilà, petit à petit, il faut observer aussi les productions culturelles, les films, les séries, pour voir de quelle manière peut se traduire une latinisation véritable des États-Unis.
Alors, tout à fait d'accord. Je te donne la parole, Virginie, mais si je devais répondre à ma propre question, je dirais également, quand même, la dimension linguistique est absolument fondamentale. Moi, je me souviens que les premières fois où je suis allé... Alors, évidemment, les expériences personnelles ne veulent rien dire d'un point de vue statistique, mais en tout cas, à l'échelle de 20 années, disons, entre la première fois que je suis allé aux États-Unis très jeune et la seconde fois, dans la même région, j'ai été stupéfait par le fait que l'espagnol n'était plus une seconde langue, comme, je dirais, au début des années 1990, mais en fait, une langue parlée exactement comme l'anglais. Et moi, je m'étais juré, justement, en allant passer un peu de temps en Californie, de ne pas parler espagnol parce que j'avais besoin d'entraîner mon anglais. Et malheureusement, dans un magasin sur deux, quand je rentrais, c'était en espagnol qu'on m'interpellait et c'est en espagnol que la conversation se nouait. Et ça dit quand même quelque chose de très très fort sur l'identité. Enfin, à la fois certainement sur un sentiment de remise en cause identitaire qui doit exister aux États-Unis dans une partie de la population, mais aussi sur l'emprise de cette latinisation des États-Unis. Virginie, tu voulais réagir ?
Oui, moi je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que par le bas, c'est-à-dire effectivement, il y a à la fois une transnationalisation très forte quand même de mouvements migratoires qui en fait continuent à être faits quand même de va-et-vient. Cette latinisation, elle est réelle. Dans 20 ans, ça sera un quart de la population américaine qui sera hispanique. Quand tu dis on peut... À Los Angeles, c'est 50% de la population qui est latino. C'est la moitié de la population de la ville. Hein, donc Los Angeles, c'est vraiment la... On dit majority-minority city, c'est-à-dire que la majorité à Los Angeles, ce sont les minorités. Hein, et aujourd'hui, les latinos qui sont une majorité. Mais même à New York, on peut... trouver, y compris des populations latino qui sont là depuis 25-30 ans et qui ne parlent toujours pas anglais et qui, en fait, se débrouillent en espagnol complètement. Donc, effectivement, le bilinguisme augmente. Toutes ces villes sanctuaires développent justement le bilinguisme, voire le plurilinguisme, en introduisant encore d'autres langues dans toute leur documentation, d'ailleurs... comment dire...
Et y compris dans les espaces de scolarisation. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé en Californie, notamment.
Et du coup, et d'un autre côté, ce que je disais aussi sur le retour de migrants d'origine mexicaine, mais qui sont des gens qui sont binationaux au Mexique aujourd'hui, c'est-à-dire le développement des binationalités, parce que ça aussi c'est un phénomène qui se développe beaucoup au XXIe siècle, la binationalité, et l'influence très importante de l'anglais aussi en Amérique latine de façon générale dans les écoles, hein, pas seulement qu'au Mexique, mais c'est aussi dans toute l'Amérique du Sud. Enfin, dès qu'on est issu d'une famille de classe moyenne, on va essayer de scolariser, si c'est possible, ses enfants dans une école bilingue. Donc je pense qu'il y a effectivement des interpénétrations culturelles, socioculturelles à divers titres, qui font qu'on pourrait dire comme cette petite fille, quoi, que cette frontière, quelque part, elle est obsolète, quoi. Enfin, la frontière les traverse tous, d'une certaine manière.
Bon, tu m'as volé ma conclusion, donc je suis vraiment... Stéphane, tu voulais intervenir?
Non, pour répondre à ta question à propos des brouillages des lignes et des pistes à trouver avec, effectivement, les influences linguistiques et religieuses et catholiques et protestants, j'ai envie de dire que l'histoire de France... par rapport à l'Amérique latine, est une forme de réponse, mais un peu paradoxale. Parce qu'au fond, la France, disons, 16e et 17e siècle, a souhaité, au fond, créer un empire aussi français en Amérique latine par les tentatives pour la France australe et la France antarctique au Brésil. Mais c'était une France protestante, en grande partie, des expéditions protestantes, parce qu'à l'époque, il y avait une réaction très vive contre le pape qui avait effectivement fait la fameuse encyclique papale du partage entre les empires espagnols d'Ordesillas, entre le partage espagnol et portugais, et que la France ne souhaitait pas être écartée du jeu et du gâteau, en quelque sorte. Et puis il y a eu, paradoxalement, plus tard, on a évoqué ce matin, la tentative donc, de Napoléon III avec le Mexique, mais c'était inverse, effectivement, d'avoir une France latine et catholique dans un monde anglo-saxon, mais c'était une inversion par rapport au projet initial. Mais donc, pour résumer, ces clivages transcendent évidemment selon les évolutions évidemment des situations, que ce soit pour la France ou pour les États-Unis par rapport à l'Amérique latine.
Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires? Oui. Dites-moi. Moi, rapidement, je vais répéter pour la salle. Donc, le premier niveau de la réflexion, disons, c'est sur les causes migratoires, mais monsieur dit, au fond, c'est intéressant de placer cette question à l'échelle mondiale, mais ça fait écho très fortement à ce qui a été dit. Première cause, des causes de conflits, de guerres, etc., ce qu'on a vu, dans une certaine mesure, dans le cas latino-américain, par exemple, les migrations centra-américaines des années 80, lorsque l'Amérique centrale est à feu et à sang, ou des migrations économiques, absolument, et ça, on le voit évidemment dans le cas latino-américain. Ce que Virginie a évoqué dans une certaine mesure en parlant des effets du cyclone Mitch à la fin des années 1990, absolument. Alors, ça c'est une autre question. J'essaie de... Oui, alors après, pourquoi part-on effectivement pour essayer... Alors, c'est le grand paradoxe des migrations latino-américaines aux États-Unis, pour essayer effectivement, basiquement, de trouver des conditions de vie meilleures, si ce n'est qu'on se retrouve effectivement avec les politiques, alors à la fois les politiques de stigmatisation, mais aussi d'exclusion qu'on peut trouver aujourd'hui aux États-Unis. Mais je suis d'accord avec vous.
On pourrait peut-être juste rajouter que c'est partir pour mieux vivre ailleurs, mais aussi pour pouvoir mieux vivre chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, le départ, souvent, c'est aussi pour pouvoir revenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de migrant qui part en se disant « je pars pour toujours », en fait. Il y a toujours cette idée de revenir. Et très souvent, en fait, quand on fait des entretiens avec des migrants à l'étranger, ils expliquent bien qu'ils sont partis pour pouvoir revenir mieux chez eux et avoir une meilleure maison et un meilleur village et déménager à la ville, donner une meilleure scolarisation à leurs enfants, etc. Donc on ne peut pas penser aussi cette migration sans l'idée du retour et aussi sans l'effectivité du retour. Et en fait, ce que ne permet pas la frontière et la fermeture de la frontière, c'est justement cette reconnaissance que la migration, c'est une circulation et qu'en fait, les migrants souhaitent circuler. Et ce qu'on a fait en 1986 en disant on ferme la frontière et on régularise les gens sur place, c'est finalement on a fait venir les gens aux États-Unis parce qu'ils ne pouvaient plus circuler justement. Et donc le plaidoyer pour l'ouverture des frontières, il est aussi en ce sens, c'est-à-dire reconnaître que la réalité de la migration, c'est de la circulation. Et c'est ça qui n'est pas possible. En fait, c'est ça que les politiques migratoires ne comprennent pas aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'en Amérique.
Exactement. Et c'est en cela que votre question est intéressante, monsieur, parce que moi aussi, j'ai écouté cet après-midi notamment beaucoup de passages de ce qui a été dit avec un écho très fort en Europe. Donc il ne s'agit pas ici de développer cette comparaison, on n'a pas le temps, mais c'est évident que beaucoup de choses communes sont en jeu, monsieur. Alors, Virginie, tu nous as dit que les Hispaniques représentaient aujourd'hui environ un cinquième de la population totale. Qu'est-ce que ça correspond en termes de corps électoral? Mais surtout, la question, c'est est-ce qu'ils votent plus ou moins que la moyenne américaine, dont on sait qu'elle ne vote pas? Parce que une des grandes spécificités du système politique américain aujourd'hui, c'est l'abstention. Et au fond, la faible représentativité, souvent, des présidents élus. Donc, est-ce qu'il y a des données là-dessus? Et après, on va devoir s'arrêter. Peut-être une mini-question, monsieur, on verra.
Ouais, c'est une bonne question. En fait, donc j'ai dit sur les 60 millions de latinos, là, il y a 32 millions de votants, le corps électoral, hein, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de vote. Hein. Aux dernières élections en 2016, il y a un peu moins d'un latino sur deux qui allait, enfin d'un latino inscrit sur les listes électorales qui allait voter. Et là, les derniers sondages qui ont été faits par le centre de recherche là sur les hispaniques la semaine dernière disent que 52% des potentiels votants disent vouloir aller voter en 2020. Que potentiellement, ça serait entre la moitié et deux tiers, suivant les différents sondages.
Ce qui me semble supérieur à la moyenne, n'est-ce pas?
Et alors, je ne sais pas, en fait, quel est le pourcentage global de la population américaine qui vote.
Alors, il me semble qu'aux dernières présidentielles, on était autour de 33-35% de votants, si j'ai bonne mémoire, ce qui donnerait... à vérifier, mais je crois que c'est ça, monsieur. Est-ce que dans la campagne électorale, et vous savez que ce soir, il y a le premier, c'est ce soir, non ? Le premier débat, oui, voilà. La question de monsieur, c'est savoir si dans la campagne de Biden, il y a des choses spécifiques sur la population des latinos, et surtout le projet de détruire le mur ou de rompre avec la politique, disons, de fermeté à la frontière mexicaine.
Pas vraiment de rompre avec la politique de fermeté. En revanche, de pérenniser le statut des DACA, par exemple, hein, que Trump veut remettre en question, oui, ça oui. Donc, la politique de fermeté par rapport à la frontière, il n'y a pas vraiment de prise de position forte là-dessus. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup, en fait, d'efforts. Enfin, il n'y a pas beaucoup non plus d'actes politiques forts de Biden en faveur de cette communauté latino, même s'il y a quelques députés qui sont très, très actives. Hein, je pense à cette jeune députée de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est sans doute une des puissances montantes des démocrates latinos et qui est la génération des années 35 ans, je sais pas, à la moins de 40 ans. C'est la nouvelle génération politique qui va pouvoir peser, mais voilà. Il n'y a pas énormément de choses.
Au fond, la prochaine étape sera sans doute de voir accéder au pouvoir, à la présidence de la République, un latino ou une latina, enfin un hispanique ou une hispanique, ce qui sera sans doute un pas supplémentaire dans la transformation. Il va falloir qu'on libère la salle, chers amis. Donc, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement les quatre intervenants qui ont été, comme d'habitude, efficaces. Efficace, synthétique et pédagogue. Je vous remercie également pour votre fidélité qui ne se dément pas, malgré les conditions sanitaires compliquées. Et je n'ai qu'à vous donner rendez-vous l'année prochaine, où ce sera forcément un festival très spécial, puisque ce sera, d'une part, on aura trouvé un vaccin, donc on sera tous tranquilles, on pourra redanser, etc., etc. Et puis d'autre part, ce sera le 30e anniversaire du festival, et donc ce sera nécessairement un événement particulier. Donc je vous dis à l'année prochaine. Merci.